Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Il s'est incliné devant elle, sans rechigner. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Je trouve ça magnifique.
L'émotion des Anglais devant le château de Windsor au lendemain de la mort du prince Philippe. Et dans une demi-heure, ce sont 41 coups de canon qui vont être tirés depuis les plus grandes villes du royaume. Nous serons sur place. Et à 12h45, nous reviendrons sur le destin si singulier de celui que la reine appelait son roc. 73 ans de mariage. Nous serons avec le spécialiste de la famille royale britannique, Jean Descartes. Dans l'actualité, le début des vacances et pas de ruée dans les gares pour cause de déplacement avec attestation. Mais des parents qui emmènent les enfants chez les grands-parents. La colère des maires qui ne veulent pas être responsables de la sécurité sanitaire des élections régionales. La colère des motards qui ne veulent pas, eux, qu'on leur impose de contrôles techniques comme pour les voitures. L'actualité sportive avec un match piège pour le PSG face à Strasbourg en Ligue 1 cet après-midi à 17h. La météo bien triste et pluvieuse, nous dira Valérie Darmon. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur les bègues à répétition avec le retour de l'école à distance. Et puis, plonger au cœur du fort de Saint-Cyr, en région parisienne, où la Cinémathèque restaure depuis 12 ans maintenant le film culte d'Abel Gance, Napoléon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous pleurons tous avec vous, Mam. Voilà pour le titre du Sun, le très populaire tabloïd qui témoigne de l'émotion des Anglais qu'ils partagent avec la reine après la disparition du prince Philippe, celui que la reine Elisabeth appelait son roc. Une émotion qui s'exprime depuis hier aux abords du château de Windsor où s'est éteint à 99 ans le duc d'Édimbourg. Où vous vous trouvez, Théo Manval, alors que des salves de canons seront tirées dans moins d'une demi-heure dans tout le pays?
Oui, 41 coups de canon depuis les grandes villes du royaume, Londres, Édimbourg, Cardiff, Belfast, depuis aussi les bateaux de la Navy où le prince Philippe avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce matin, vous l'entendez, les militaires du régiment historique de Windsor sont venus faire un salut silencieux devant le château, où se succèdent toujours des Britanniques venus déposer des fleurs comme Alex avec ses deux filles.
Il a été une sorte de grand-père pour notre pays, c'était une telle figure, le roc de la reine pendant toutes ces années. Et même s'il avait atteint un grand âge, c'était vraiment très très triste de le voir partir. Alors on vient dire notre respect.
Suzanne, elle, est venue avec trois roses rouges. Je n'en ai pas trouvé 99, sourit-elle, pour les 99 années de vie du prince, dont 73 passées dans l'ombre protocolaire d'Elisabeth II.
Aujourd'hui, tellement de couples abandonnent quand les choses commencent à être difficiles. Leur vie à eux a dû être tellement difficile quand elle est devenue reine si jeune. Et il l'a servi. Il s'est incliné devant elle, sans rechigner. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Je trouve ça magnifique.
Et tout le monde attend maintenant la date et le détail de la cérémonie de funérailles. Il n'y aura pas de moment de recueil pour le public devant le cercueil. J'espère qu'on pourra suivre à la télé, souffle cet homme. Les camions chargés d'installer les moyens de retransmission viennent justement d'arriver.
Théo Manval aux abords du château de Windsor et nous reviendrons dans quelques minutes sur le destin si singulier du prince Philippe, indissociable bien sûr de celle qu'il a épousée il y a 73 ans. Nous serons avec Jean Descartes qui vous raconte cette vie si singulière dans le podcast Au cœur de l'histoire d'Europe 1 Studio.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Et c'est donc les vacances pour tout le monde pour 2 semaines. De quoi se reposer pour les parents des bugs à répétition de l'école à distance qui a donné bien des migraines depuis mardi autant aux profs qu'aux parents d'élèves. Pas d'affluence particulière dans les gares puisque toute la France est soumise au régime de l'attestation pour les déplacements de plus de 10 km avec motif impérieux. Marion Gauthier, vous venez d'arriver en train à La Rochelle et à bord de votre train, vous avez croisé pas mal de parents qui emmenaient leurs enfants chez les grands-parents.
Oui, et ils sont assez reconnaissables, souvent seuls, entourés d'enfants qui piétinent et bardés de valises. Presque à chaque gare, ce sont de petits convois pressés qui descendent et rejoignent souvent les grands-parents. Stéphanie fait l'aller-retour pour déposer ses 3 filles. Une respiration pour tout le monde, même pour elle qui doit rentrer à Paris faire du télétravail.
Mesdames et messieurs, prochaine gare d'arrêt dans quelques instants.
C'est l'appel des vacances.
Exactement, c'est la liberté après une semaine comme celle-là.
on va pouvoir faire les choses en étant plus concentré, moins distrait par les enfants, avec moins d'angoisse en fait, de tout gérer en même temps.
Quelques jours seulement de répit. La semaine prochaine, il faudra à nouveau chercher les enfants et une solution de garde. Ceux qui le pouvaient ont évidemment posé des vacances, comme Lucie. Elle part de chez sa mère, qui l'aidait avec ses enfants, direction les plages de Royan.
Nous, on va pouvoir jouer dans le jardin, jouer au ballon sur la plage et on pourra nager.
On a des combinaisons en néoprène, donc ce serait la cerise sur le gâteau. Si on pouvait aller nager, mais bon, déjà ce sera super quoi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trains annulés, la SNCF je crois fait un peu au jour le jour. Je savais pas trop si on pourrait partir, donc on va être content d'arriver.
Et la famille échappe à la pluie rochelaise, encore un changement et une heure de voiture. Rarement le rivage et ses embruns auront été autant mérités.
Marion Gauthier à La Rochelle pour Europe 1. Et puis alors qu'on a beaucoup parlé des restos clandestins, cette semaine, cette nuit dans un bar-restaurant parisien du 19e arrondissement, les policiers ont été appelés pour tapage nocturne et ils ont mis un terme à un rassemblement de plus de 110 personnes. C'est ce qu'indique ce matin la préfecture de police. Les convives ont été verbalisés pour non-respect des mesures sanitaires. Le gérant et l'organisateur de ce rassemblement ont été placés en garde à vue. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui ont été touchés par le gel et le ministère de l'Agriculture a d'ores et déjà déclenché la procédure de calamité agricole. Alors on a beaucoup parlé des vignes avec ces images impressionnantes de flambeaux pour réchauffer l'atmosphère dans les vignobles, mais d'autres cultures ont été touchées. C'est ce que confiait ce matin sur Europe 1 Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs.
Aujourd'hui, c'est quasiment 10 régions en France métropolitaine qui sont concernées, donc quasi la totalité sur beaucoup de productions, sur les vignes, mais aussi toute l'arboriculture et une partie des grandes cultures avec les betteraves, le blé à certains endroits, le colza qui était en fleurs qui a gelé.
Et ce dossier, on y reviendra ce soir dans le 18-20 de Wendy Bouchard, puisque Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, sera son invité à 18h15. C'est samedi prochain que les dirigeants de la gauche vont finalement se réunir. C'était une initiative qui avait été lancée par l'écologiste Yannick Jadot. Il devrait y avoir Olivier Faure, Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel, mais pas Jean-Luc Mélenchon, même si la France insoumise sera bien représentée, comme l'a précisé ce matin juste le leader et candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon.
On est partisan d'y aller. Hein. Il faut, chaque fois qu'il y a un lieu où on débat, on dialogue, on ira. Mais il faut que les choses ne soient pas, si vous voulez, ou des traquenards ou une instrumentalisation des gens. Parce que d'abord, c'était la première proposition de Jadot qui était de dire bon, stop, halte au feu, passons à un pacte de non-agression, ça suffit de se taper entre nous. Et entre-temps, l'affaire a évolué. Alors, on a entendu un peu parler de législative, de présidentielle. Alors, nous allons d'abord demander comme précaution préalable, nous voulons savoir de quoi on parle à cette réunion, et nous proposons qu'on parle de faire un front commun pour défendre les libertés face à la dérive autoritaire du gouvernement. Deuxièmement, nous allons proposer qu'en effet, on organise des débats publics sur le programme, parce que ça motivera nos électeurs.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui se met en ordre de bataille pour la présidentielle, mais avant il y aura les régionales. C'est prévu pour les 13 et 20 juin. Normalement, le gouvernement se laisse encore la possibilité de les reporter suivant l'évolution de la crise sanitaire. Débat prévu d'ailleurs cette semaine au Parlement. Et l'une des questions essentielles, c'est de savoir si on va prendre un risque en allant voter. On se souvient de la polémique après les municipales de l'an passé. Et à la surprise générale, le gouvernement, Jean-Rémy Baudeau, a demandé hier l'avis des maires.
Oui, c'est un mail inattendu, tombé hier en fin d'après-midi dans la boîte mail de quelques 35 000 maires de France. Le gouvernement met sur la table les conditions sanitaires préconisées par le conseil scientifique, à savoir des assesseurs vaccinés, un dépouillement dans de grandes salles, des bureaux de vote, si possible en extérieur par exemple. Tout ça, évidemment, pour réduire les risques de contagion. Interroger les maires, pourquoi pas, mais doivent-ils réellement porter cette responsabilité? D'autant que le délai interroge, car il leur faut répondre avant lundi midi. Philippe Laurent est secrétaire général de l'Association des maires de France. Il est au micro Europe 1 de Diane Berger.
Évidemment, la responsabilité de maintenir ou pas revient au gouvernement. En aucun cas, la responsabilité ne peut revenir au maire, ni d'ailleurs au président de département, ni au président de région. C'est une démarche qui n'était pas prévue au départ. Je pense que le gouvernement est parfaitement éclairé. Maintenant, s'il veut faire autrement, sans l'avoir annoncé au départ, on change la règle du jeu pendant le match. Bon, nous en prenons acte.
Les régionales, sujet sanitaire, mais avant tout politique pour l'exécutif bien décidé à ne pas rejouer le drame des municipales, sauf qu'il n'existe pas de ligne unique. Le Sénat, les associations de maires poussent pour le maintien, mais même au sein de la majorité, pas de consensus. LREM demande un maintien en juin quand le patron de l'Assemblée, Richard Ferrand, se prononce pour un report. Le débat cette semaine au Parlement s'annonce agité.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Dans un instant, une autre colère, celle des motards qui ne veulent pas entendre parler du contrôle technique auquel ils vont peut-être devoir être soumis dès l'an prochain.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Les motards, une nouvelle fois en colère, et cette fois, c'est à cause du contrôle technique qu'on pourrait leur imposer dès l'an prochain, comme pour les voitures, pour des raisons de sécurité. Résultat, opération escargot cet après-midi, notamment dans la région de Lille. Maximilien Carlier.
Contrôle technique, non aux raquettes. C'est ce qu'on peut lire sur le pare-brise de la 1600 cm3 de Philippe. C'est le coordinateur dans le Nord de la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère.
C'est une mesure totalement inefficace pour l'objectif pour lequel le contrôle technique est demandé, c'est-à-dire faire baisser l'accidentologie.
Étude à l'appui, il n'y aurait selon lui quasiment aucun accident lié au mauvais entretien d'une moto. Michel Vosinski de la FFMC du Pas-de-Calais.
Les motards sont des gens qui sont consciencieux et qui font réviser leur moto régulièrement. On vérifie la pression des pneus, on vérifie le niveau d'huile, enfin plein de choses. Quand on monte sur la moto, on fait le tour avant.
Et ce contrôle technique, justement, s'il entre en vigueur, eh bien il aura un coût, et c'est ce qui coince.
Ça a un impact financier, on ne peut pas le négliger. Les motards ne sont pas que motards, ils sont aussi automobilistes. Hein. On est multi-usagers en fait. Tous les motards ne roulent pas sur l'or, hein, donc voilà.
Un entretien qui pourrait être d'ailleurs plus cher que pour une voiture, car peu de centres équipés pour faire les révisions, c'est ce que craignent ces motards. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
L'actualité sportive avec un match qui pourrait être piège pour le PSG après sa performance cette semaine en Ligue des Champions, sa victoire face au Bayern, qui a peut-être laissé des traces dans les organismes. Les Parisiens, qui sont toujours dans la course au titre en Ligue 1 cette fois, se déplacent en effet à Strasbourg cet après-midi, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Parisiens sont sur leur garde car ils ont perdu les trois derniers matchs qui ont suivi leur rendez-vous européen. Or, Paris ne peut pas se relâcher. Il ne reste que 7 matchs à jouer en Ligue 1, 21 points à distribuer. La défaite contre Lille a coûté très cher. L'objectif est de s'imposer tout en ménageant un effectif déjà diminué. Neymar est suspendu, Marquinhos souffre aux adducteurs, Verratti et Florenzi sont toujours absents pour cause de Covid. L'entraîneur Mauricio Pochettino sera très prudent.
Pour nous, l'important, c'est notre capacité à détecter les joueurs les plus frais pour jouer ce match, sans non plus leur faire courir le moindre risque. Il faudra être prêt physiquement, mais aussi avoir de la qualité pour gagner ce match.
Même amputé de plusieurs joueurs, Paris peut se transformer en véritable bulldozer, mais l'entraîneur de Strasbourg, club qui végète au milieu de tableau, a quand même un petit espoir de l'emporter.
Ça va être chaud, mais s'ils sont à 100%, t'auras pas trop d'espoir. Par contre, s'ils ne sont pas à 100%, tu peux avoir des ouvertures.
D'autant que Paris a déjà perdu 8 fois cette saison en Ligue 1. Mais si Kylian Mbappé brille comme mercredi dernier à Munich, alors ce sera une autre histoire.
Et puis hier soir, Lille a conforté sa place de leader avec une victoire à Metz 2-0. Autre match de la journée, Montpellier-Marseille, ce sera 21h. Et puis du beau spectacle en perspective avec 5 clubs français en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Et notamment demain, 2 affiches 100% françaises, Bordeaux, Racing, Clermont, Toulouse. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et c'est Tristounet, Valérie Darmon.
Effectivement, avec quelques petites nuances de gris. Gris foncé d'abord, de la Bretagne et de la Normandie aux Hauts-de-France, où le temps est bien maussade depuis ce matin, avec des pluies assez soutenues et durables. Gris foncé aussi, mais plus sec, des Pays de la Loire au centre, au bassin parisien, de la Champagne, des Ardennes, au nord de la Bourgogne, jusqu'en Lorraine. Gris clair, du Bordelais, au nord de l'Auvergne, moment plus sec d'ailleurs, avec quelques belles éclaircies, et puis du sud de l'Aquitaine au Lyonnais, éclaircies et douceur. Aussi. Rideau de pluie en revanche en Occitanie, sur le Languedoc et les Cévennes, où il va tomber l'équivalent de 15 jours de pluie. De la pluie plus tardive de la région PACA à la Corse. Avec des maximales entre 10 à Cherbourg et 22 à Mont-de-Marsan, je vous en donne quelques-unes. 12 à Quimper, 14 annoncés à Reims par Météo France, 15 en région parisienne, ainsi qu'à Metz, 16 au Mans, 17 à Nice, 18 à Dijon, 19 à Marseille et enfin 20 degrés à Biarritz.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi.
Fabienne Lemoyle.
À suivre, on va revenir sur le destin si singulier du prince Philippe que les Britanniques pleurent depuis hier, celui que la reine Elisabeth appelait son roc. Nous serons avec Jean Descartes qui nous raconte cette vie dans l'ombre de la reine dans le podcast Au cœur de l'histoire d'Europe 1 Studio. Jean Descartes, auteur aussi d'Elisabeth II, la reine, aux éditions Perrin.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Beaucoup d'émotions, on l'a entendu au début du journal, depuis ce matin devant le château de Windsor où les Anglais viennent rendre hommage au prince Philippe, duc d'Édimbourg. Et on va revenir sur le destin si singulier de cet homme qui a vécu pendant 73 ans dans l'ombre d'Elisabeth II avec un grand connaisseur de la famille royale britannique que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi en studio. Je dis grand connaisseur car vous racontez depuis hier à travers le podcast Europe 1 Studio au cœur de l'histoire ce destin du prince Philippe. Mais déjà, quand on voit cette émotion populaire qui n'est pas feinte, elle témoigne de quoi ? De quelle place particulière qu'avait le prince Philippe dans le cœur des Anglais ? Je vous le disais à l'instant, c'est le roc de la reine ou c'est le grand-père aussi aux côtés de ses petits-fils, Harry et William, marchant à pied au moment des obsèques de leur mère Diana ?
C'est tout cela, mais c'est aussi une mémoire de l'Europe. Le prince Philippe de Grèce, né le 10 juin 1921 sur une table de cuisine dans une villa à Corfou, représente par ses ascendances danoises, Romanov, allemande, c'est un arrière-arrière-petit-enfant de la reine Victoria aussi, et donc un cousin de la future reine Elisabeth. C'est une mémoire européenne, si vous voulez, d'une façon extraordinaire à un garçon qui a des parents qui ne s'entendent pas, qui sont séparés. Il a quatre sœurs qui vont s'occuper de lui d'une façon heurtée, désorganisée. Je dirais que c'est d'une certaine façon une sorte de SDF du Gotha européen qui n'est jamais chez lui. Il est toujours chez les autres, en vacances, hébergé. Alors, ça sera après la Grèce, la France, où il arrive à Saint-Cloud, où un de ses oncles, cousin, parent, enfin frère du roi de Grèce détrôné, a épousé la princesse Marie Bonaparte. Et il sera ensuite en Écosse, il sera en Allemagne, mais il n'est jamais chez lui.
Mais il commence, j'ai envie de dire, à travers ce que vous nous dites, à être chez lui vraiment quand il est justement avec cette reine dont on
absolument
sait qu'elle est tombée alors amoureuse à 13 ans, lui peut-être pas tout de suite d'ailleurs finalement.
Oui,
ils apparaissent totalement indissociables. Dites-nous quel est le rôle si singulier qu'il joue auprès de la reine.
Eh bien,
on dit qu'il était son confident.
Si vous voulez, c'est un paradoxe très réussi. Il n'a aucun rôle officiel parce qu'on ne voulait pas recommettre l'erreur qu'avait commise la reine Victoria qui avait fait nommer son mari Albert prince consort, ce qui fait qui partageait la responsabilité de la couronne, ce qui n'a jamais été le cas pour le prince Philippe. En revanche, quand la reine a dit, elle lui a rendu hommage au moment de leur jubilé, il y a une dizaine d'années, pour dire « il est mon roc, il est mon soutien, etc. Pourquoi » Pourquoi ? La reine, par exemple, qui est la personne la mieux informée du monde, dit-on, reçoit son premier ministre tous les mardis, sauf urgence. Elle a étudié tous les dossiers. Elle propose des solutions, mais c'est le gouvernement qui choisit, le gouvernement de Sa Majesté. On suppose que lorsqu'elle sort de cette audience secrète, dont même les corgis n'ont pas la traduction, on suppose que la seule personne vers laquelle elle puisse faire une évocation du sujet en cours, et il y en a eu, serait le prince Philippe qui, paradoxalement, avait la réputation d'un gaffeur, de faire des plaisanteries absolument épouvantables, mais qui était un rempart, un roc, c'est-à-dire une respiration. Je dois dire que même le Premier ministre David Cameron avait dit que les formulations bizarres et choquantes par moments du prince Philippe devraient entrer dans une histoire de la littérature anglaise.
Et même le prince Philippe a dit lui-même, je me souviens lors d'un discours, en présence de la reine, elle a une bonne dose de tolérance, la reine n'en manque pas, justement.
Absolument. Et en plus, si vous voulez, il a subi des avanies, même après son mariage. Premiers enfants ne pouvait pas porter son nom. Il a fallu qu'il se batte, il a fallu que la reine arrive à convaincre le gouvernement, le Parlement. C'est seulement en 1960, avec Andrew et Edward, que les enfants peuvent prendre le nom de Mountbatten, qui est, l'anglicisation de Battenberg, le nom de sa mère, Mountbatten Windsor.
Mais alors justement, quand on vous entend, Jean Descartes, quand on voit la place particulière, forcément, ces 73 ans qu'ils ont partagés ensemble, on se demande aujourd'hui, est-ce que la reine peut continuer à être reine sans le prince Philippe ? Est-ce qu'elle, si elle n'a plus ce confident, le seul avec qui elle peut, vous pouvez parler, comme vous l'expliquez, est-ce qu'elle ne peut pas être tentée de passer la main ?
Alors écoutez, comme c'est impossible à dire, je vous rappellerai ce qu'elle a dit le jour de son 21e anniversaire. Nous sommes en 1947, elle est en Afrique du Sud, au Cap, et elle dit à toutes les populations du Commonwealth, successeur de l'Empire, que ma vie soit longue ou courte, je resterai au service de la nation. Je pense que c'est une femme de devoir, on le sait, elle l'a appris.
Et on l'a vu pendant la pandémie, effectivement.
Voilà. Donc, à moins qu'il y ait une raison médicale de santé, et encore, elle pourrait rester la reine et un régent pourrait être nommé son fils. Alors, on parle déjà à Londres, depuis deux jours, du futur roi, Charles, qui n'est plus seulement, si je puis dire, le prince de Galles, qui attend depuis des années. Ça n'est pas nouveau, vous savez, simplement en passant, quand... du temps de la reine Victoria, le futur Édouard VII, le prince de Galles, attendait lui aussi. Il adorait la France. Il vient faire un nouveau voyage en France et la police informée dit au cabaretier de Montmartre qu'il aimait fréquenter. Alors, un peu de tenue ce soir, hein, c'est le futur roi d'Angleterre. Donc, Rodolphe Salis, qui tenait le cabaret du Chat Noir à Rochechouart, lui dit « Alors, Monseigneur, cette maman, toujours en bonne santé ?» Bon, vous voyez le genre. Donc, il y a un certain humour dans la famille. Philippe était le roc. Est-ce que la reine, femme de devoir, qui en a tellement vu dans tous les sens, qui a vécu la guerre froide, qui s'est opposée au gouvernement, souvent dans des conditions extraordinairement fortes, mais qu'on n'a pas su, est-ce que la reine va tenir ? Toute la population britannique s'interroge. Oui.
Alors, le prince Philippe avait quand même réussi à se forger une place, notamment par son engagement pour l'écologie.
Oui.
C'est lui qui a d'ailleurs fondé la branche britannique du WWF. Un engagement dont il avait parlé sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabbach, c'était en 1991.
J'étais dans la marine pour 12 ans, alors on était toujours sur la mer. On existe dans la nature et en conscience de tout ce qui se passe autour. On ne peut pas dire que c'est une patience, c'est quelque chose qu'on a appris, que c'est une background.
Et est-ce que Sa Majesté la Reine soutient votre action dans le domaine de l'écologie ?
Ah oui, pourquoi pas. Ouais.
Ouais. Elle participe ?
Elle a assez à faire à lui-même.
Voilà, le prince Philippe au micro de Jean-Pierre Elkabbach, où on découvre que le prince parle un français parfait. Justement, à l'instant, il y a ce communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui rend hommage au prince Philippe, qui était familier de notre pays pour y avoir vécu dans sa jeunesse, justement. C'est ça qui est marquant.
Absolument. Vous savez, il avait cet humour extraordinaire, un peu cassant, un peu choquant par moments, qui était une façon d'exister, d'être enfin indépendant. Et je rappellerai aussi que lui, qui avait toujours été sans logis, si je puis dire, du Gotha, a mis un soin particulier avec la reine à décorer et aménager le yacht royal Britannia. Il a dit « c'est ma première vraie maison » parce qu'on l'a conçue pratiquement complètement, et d'où les larmes de la reine au moment du désarmement de ce navire.
Une dernière question, Jean Descartes, il n'y aura pas de funérailles nationales. C'était une volonté du prince.
C'était une volonté, il voulait des funérailles simples, solennelles, qui seront sans doute militaires, car il était resté un marin. Il avait été un très bon marin, commandant de frégate, capitaine de frégate, entre autres. On l'avait nommé après grand amiral à titre honoraire. Il adorait la mer, comme son oncle Louis Mountbatten. Une cérémonie militaire, des salves d'artillerie, ça a beaucoup plus d'allure. Et je terminerai en disant ce qui est extraordinaire pour lui, d'une certaine façon, c'est de mourir à Windsor, dans cet endroit qui est la plus grande forteresse du monde, toujours occupée, 1000 ans d'histoire. Et avec ce nom de Windsor, trouvé par le roi George V, le grand-père de la reine, en 1917, pour angliciser le nom de la dynastie assez germanique, et que le prince Philippe, qui avait donc vu rajouter à son nom celui de Windsor, s'éteigne au château de Windsor. Ça veut dire qu'il a gagné son dernier combat d'identité.
Merci beaucoup Jean Descartes d'avoir partagé avec nous justement ce destin si singulier, on le disait, du prince Philippe. Je rappelle que les auditeurs peuvent écouter votre podcast Au cœur de l'histoire, où vous racontez justement ce destin. Et puis il y a ce livre sur Élisabeth II, la reine, aux éditions Perrin. C'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'on a bien compris que désormais, la reine va cheminer seule, même si, vous l'avez dit, elle a ce destin chevillé au corps de cette mission qu'elle doit accomplir jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous
ce midi sur Europe 1.
Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur les bugs à répétition avec le retour à l'école à distance et puis plonger au cœur du fort de Saint-Cyr où la Cinémathèque restaure depuis 12 ans maintenant le film culte d'Abel Gance, Napoléon.